Théologie scientifique, le Verbe incarné, le 19 octobre 84, Rimont.
Nous allons commencer cette année scolaire en essayant d'entrer dans le mystère du Verbe incarné. Alors, d'abord, si vous voulez, une petite introduction, parce que vous comprenez bien que ce sujet est très important pour nous, c'est capital. J'aurais voulu le travailler plus. Hélas, on n'a pas toujours beaucoup de temps, parce que c'est quand même ce que on devrait travailler tout le temps. On le travaille tout le temps, remarquez. C'est évident, on fait de la théologie tout le temps. Mais faire de la théologie dans une perspective de théologie scientifique et d'une théologie pour exposer au point de vue d'un cours, c'est pas tout à fait la même chose que la prédication. La prédication, on prêche tout le temps le Christ crucifié. Autrement, ça n'a pas de signification. Vaine est notre foi si le Christ n'est pas ressuscité. Et si nous ne prêchons pas le Christ, je ne vois pas ce qu'on prêche. Donc on est toujours lié à cela, toute sa vie apostolique. Alors, je suis dans une situation assez particulière, voyez. Je suis au terme de ma vie apostolique. Tout en enseignant la philosophie, on vit au niveau de sa vie de foi. Et sa vie de foi est centrée sur le Christ. Sur le Christ crucifié et glorifié. Au terme de mes études de théologie, je voulais faire mon doctorat sur le Christ crucifié est établi par Dieu, notre sagesse. Et j'avais fait mon mémoire de lectorat. Le mémoire de lectorat correspond, si vous voulez, à ce qu'on dirait aujourd'hui notre mémoire de licence. J'ai fait le mémoire de lectorat sur cette parole de saint Paul. Vous voyez donc que toutes mes études théologiques étaient orientées sur cette affirmation « Le Christ crucifié est établi par Dieu notre sagesse, Sophia ». Je crois que c'est ce point de vue-là qui est toujours resté. Je n'ai pas fait ma thèse là-dessus, parce que le bon père Eris m'a dit « Moi, je suis d'accord, mais tel père n'est pas d'accord. » Vous voyez que les difficultés, au point de vue des professeurs, existent tout le temps. Et que c'était le bon père Demant, à ce moment-là, qui était professeur de morale, qui avait des perspectives très, très différentes des perspectives du père Eris. Et le père Eris avait tâter un tout petit peu le pouls en disant « je ne veux pas vous lancer dans un travail auquel vous aurez des difficultés et qu'on risque de refuser. » Un doctorat, il faut autant que possible que ça passe. Hein. Il y a un aspect, si vous voulez, qui est nécessaire. J'aurais voulu faire mon doctorat là-dessus, avec le père Eris. Avec le père Eris, c'était possible, parce que le père Eris avait quand même un sens à la fois très très grand du mystère du Christ. C'est évident que c'est un des théologiens auxquels il faut essayer de se référer, parce que c'est sûrement quelqu'un qui a très bien connu la somme théologique de saint Thomas et le traité du Verbe incarné. On se réfère à ses notes qui sont bonnes, qui sont intéressantes. Et le père Ries était tout à fait d'accord que ce soit au cœur. Il y avait à ce moment-là, du reste, toutes les grandes discussions à l'Institut catholique de Paris sur l'ordre de la somme qu'on considérait comme n'étant pas chrétien. Parce qu'au fond, un ordre de théologie au point de vue chrétien doit être centré sur le Christ. Nous y reviendrons là-dessus. Parce que je crois que ce sont des problèmes qu'il faut essayer de comprendre. C'est normal qu'il y ait ces discussions. C'est normal parce qu'il y a des perspectives différentes au point de vue théologique. Et il faut essayer de comprendre pourquoi saint Thomas a pris cela. Je ne dis pas pour le plaisir de défendre saint Thomas, c'est pas ça du tout. Je ne sais pas si saint Thomas avait tort, on pourrait dire que saint Thomas a tort. Mais il faut essayer d'entrer dans ce que saint Thomas nous dit, parce que c'est quand même le grand théologien de l'Église. Et il demeure grand théologien de l'Église. Alors on peut avoir des points de vue différents, mais on doit essayer de le comprendre. Et on s'opposait à ce moment-là en disant « L'ordre que saint Thomas prend n'est pas un ordre proprement chrétien. » Si on prend une perspective chrétienne, on doit nécessairement regarder le Christ comme le centre. Vous voyez, je me référerai assez souvent à Pannenberg parce que c'est une position que je crois intéressante pour nous. Je l'avais lu au moment où ça paraissait et je me suis remis un peu dedans parce que je crois que c'est important de faire un parallélisme constant entre cette position qui est une position protestante, intéressante, originale, qui a de fait, au moment où ça a paru, ça a fait vraiment, ça a suscité beaucoup d'éveil, et si le Cerf a donné la traduction, ça prouvait justement qu'il considérait que c'était capital. Bien, vous lisez ceci dans l'introduction, la réflexion concernant Jésus-Christ est le sens de toute théologie chrétienne. La théologie veut nous apprendre ce que nous avons à dire de Jésus comme chrétien. Vous voyez tout de suite, déjà ça, je crois que nous ne serions pas entièrement d'accord. Mais c'est intéressant parce que c'est toujours intéressant d'avoir en face de ce qu'on creuse une pensée qui est très différente. Vous allez voir plusieurs fois, je vais exprès, non pas pour le critiquer, mais pour essayer de comprendre une perspective tout autre que celle que nous allons prendre. Et quand je dis une perspective tout autre que celle que nous allons prendre, ce n'est pas du tout pour l'exclure, mais c'est pour essayer de comprendre ce qu'il y a d'intéressant dans cette perspective et comment on pourrait l'assumer. Je ne dis pas dans toute sa méthode. Donc la réflexion concernant Jésus-Christ est le centre de toute théologie chrétienne. La théologie veut nous apprendre ce que nous avons à dire de Jésus comme chrétien, à la différence de ce que peut en dire un non-chrétien décidé. Vous voyez, tout de suite, l'opposition entre le chrétien et le non-chrétien. Je ne crois pas que c'est la position théologique, ça, proprement dite. Le théologien, lui, ne s'oppose pas tellement à ce que le non-chrétien peut dire. Ça ne m'inquiète pas beaucoup. En tant que théologien, ça c'est une position déjà un peu apologétique, à la différence de ce que peut en dire un non-chrétien décidé ou quelqu'un qui suspend provisoirement son jugement sur lui. Donc nous avons encore là une troisième position, vous voyez. Ces trois positions qui sont là intéressantes à voir. Quels que soient les jugements portés sur Jésus en dehors du christianisme, si bienveillantes que soient ceux qui voient en lui un homme particulièrement noble, mais qui voient seulement cela, le chrétien a le sentiment de connaître, le sentiment de connaître la signification véritable de Jésus en adhérant à lui par la foi. Ce qu'il peut dire de Jésus devra être pour lui, du moins quant à l'essentiel de son affirmation, plus qu'une interprétation à côté d'autres interprétations qui toutes seraient également autorisées par le sujet. Il sait et il croit que la manière chrétienne de parler de Jésus est la seule appropriée, ou plutôt la seule qui convienne à la personne de Jésus. Ça c'est juste. Le chrétien sait dans sa foi qu'il peut seul parler et dire, le logos, le legein, c'est-à-dire le discours théologique sur le Christ, qu'on ne peut pas parler du Christ sans la foi. C'est donc sans savoir que Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Et pour nous, sans savoir toutes les déterminations et les précisions que l'Église a données dans cette affirmation. Parce que affirmer que Jésus est le Fils bien-aimé du Père, en prenant uniquement cette affirmation-là, sans voir toutes les précisions que l'Église a données. Et l'Église en a donné, vous en avez bien. On vous en a rappelé avec le cours que vous avez eu, que en face de certaines hérésies, en face, l'Église a précisé la signification profonde de ce que c'est que le mystère de l'union hypostatique. Et pour un chrétien qui est un chrétien qui veut être intelligent dans sa foi, ceci est capital. C'est évident, capital. Tout le reste est second. Et alors, c'est ça qu'il veut faire allusion. Alors évidemment, pas tout à fait de la même manière. Si vous regardez, il faut que tous vous puissiez, je ne dis pas lire nécessairement, ceux qui veulent vraiment étudier, faire une christologie qui soit vraie, traitée, c'est très important de le lire. De le lire comme quelque chose qui est vraiment pour nous l'essentiel. J'ai passé à Toulouse l'autre jour, je voyais le Père Leroy, et le Père Leroy enseigne la théologie dogmatique depuis un certain nombre d'années. Je l'aime beaucoup et nous aimons profondément. Je lui ai demandé s'il y avait d'autres livres, puisque je ne peux pas suivre, moi comme lui, il suit avec le bulletin thomiste, l'arbitre thomiste, il suit tout ce qui paraît. Hein. Alors on sait qu'il suit avec attention. Il m'a dit, Pannenberg reste encore une position théologique très caractéristique. Donc, c'est intéressant pour nous, parce que c'est important de voir cette position comparativement à ce que nous allons dire. Alors, je ne me place pas dans sa perspective, vous comprenez bien. Je ne vais pas faire un cours sur Pannenberg, mais de temps en temps, je me référerai à lui pour vous montrer, et si ceux qui le lisent voient qu'il y a des références que quelquefois je peux oublier, ils n'hésiteront pas à me le rappeler, n'est-ce pas ? Puisqu'on fait ce cours ensemble, hein, étant donné que je ne peux pas le préparer autant que je voudrais le préparer. Alors vous m'excuserez de toutes les choses qui ne sont pas toujours exactement ce que vous attendez. Un cours, ça implique toujours une coopération, n'est-ce pas ? Alors la coopération, c'est vous qui la faites. Et vous la faites dans la mesure où, justement, en écoutant le cours, en voyant les choses que nous voyons ensemble, ben, ça correspond plus ou moins à ce que vous voulez, ou bien que vous auriez voulu tel ou tel développement. Ben, on peut développer le mystère du Christ, le mystère du Verbe incarné, de multiples manières. C'est bien évident. Vous avez la grosse somme du cardinal Journet. Hein ? C'est important. C'est quand même important de voir comment... C'est l'Église du Verbe incarné, mais c'est quand même toujours le Verbe incarné. Et puis, c'est quand même le point de vue du mystère du Christ. Alors, je vais commencer en vous montrant, parce que je crois que c'est quand même très important d'essayer de situer, si nous avions aujourd'hui à présenter une théologie de Jésus-Christ. Je crois qu'il y a une première étude que nous devons tous faire. Ce serait de comprendre comment, à travers toute l'Écriture est polarisée par le mystère du Christ. Comment, dans l'Ancien Testament, il y a toujours cette perspective du Messie. Et nous savons nous, que le Messie, c'est Jésus-Christ. Et donc, toutes les prophéties de l'Ancien Testament nous donnent un regard divin sur le Christ. Et comme nous le demande le Concile, Vatican II, si nous avons une perspective d'ordre de l'économie divine sur le mystère du Christ, c'est capital. Je ne peux pas faire l'économie de cela. Je dois absolument regarder comment les prophètes ont parlé de Jésus. Vous voyez, uniquement ça, c'est magnifique du reste. Ce serait un des aspects qui serait très très grand et très important aujourd'hui. Je crois que c'est très très important de faire cela. Nous pouvons tous le faire dans une lecture attentive de l'Écriture. Vous pouvez lire l'Écriture dans des perspectives différentes, hein. Et vous pouvez lire toute l'Écriture, et spécialement les prophètes, dans cette attitude-là. Dans cette attitude qui consiste à essayer de comprendre comment tous les prophètes nous conduisent à Jésus. Et comment, à travers les prophéties, il y a une vision sur le Christ, sur la mission du Christ. Parce que c'est ça qui est commandé par l'Écriture, c'est la mission du Christ. Il est l'envoyé de Dieu. Qu'il soit un prophète, le plus grand de tous les prophètes, et que ce prophète se déclare fils de Dieu, dans une relation particulière avec le Père, c'est très important pour voir que dans cette mission, il y a une mission qui n'est pas seulement une mission temporelle. Certains textes, évidemment, pourraient très bien être pris uniquement dans une mission temporelle. C'est du reste pour ça que c'est interprété comme ça. Et puis, il y a une mission qui dépasse, et qui dépasse de beaucoup. Et c'est justement ça qui impressionne, de voir que, de fait, celui qui est annoncé, prenez les grands textes d'Isaïe, montre que la mission de celui qui doit venir doit apporter une paix universelle, doit apporter un achèvement complet. Donc il y a tout de suite, à travers tous les textes des prophètes, cette double vision, cet aspect plus temporel, cet aspect eschatologique, cet aspect ultime. On ne peut pas séparer la mission du Christ de l'aspect eschatologique. C'est impossible. C'est lié. C'est lié dans l'intention de Dieu, dans l'économie divine. Le point de vue eschatologique est lié directement au mystère de Jésus. Dans sa mission, je dis bien, il faut bien saisir, dans sa mission, c'est lié à ce point de vue-là. Jésus vient pour nous conduire au royaume de Dieu. Et Jésus, c'est déjà le royaume de Dieu présent. Alors, présent selon telle ou telle modalité, mais présent. Et d'une certaine manière, après Jésus, c'est lui qui continue. Alors ça, c'est la nouvelle alliance qui nous montrera le rôle du paraclet. Le paraclet vient rendre témoignage pour montrer que rien n'est donné après Jésus. Il n'y a pas une nouvelle mission, c'est la même mission qui continue. Et alors ici, pour nous, nous aurions ce point de vue qui est très important, à comprendre que la mission de l'Église et la mission du Christ est la même. C'est en ce sens-là, vous voyez, que l'Église du Verbe incarné continue le mystère du Verbe incarné, ne peut se comprendre que dans la lumière du Verbe incarné, et nous aide à comprendre le mystère du Verbe incarné. Je crois qu'il faut bien saisir cette perspective, je ne dirais pas de théologie biblique, parce que quand on commence à mettre ça, je dirais de théologie de l'économie divine. Et j'aime beaucoup mieux prendre ce terme, qui est le terme du reste du Concile, c'est essayer de comprendre l'économie divine à travers la révélation d'Ancien Testament, à travers la révélation du Nouveau Testament, et aboutissant nécessairement à ce qu'il y a d'ultime. Au fond, le mystère de Jésus, c'est le mystère de la grande attente, et c'est le mystère qui nous permet d'aller jusqu'au bout, puisque le paraclet vient nous redire tout ce que Jésus a dit. Et si le paraclet vient nous redire tout ce que Jésus a dit, le paraclet n'ajoute pas quelque chose de nouveau. Ah, il va nous conduire à la vérité tout entière, oui. Mais il ne va pas nous conduire à une vérité autre que celle que Jésus nous dit. C'est la même vérité qui continue. Ça, je crois que si nous regardons attentivement tous les grands passages sur le mystère du paraclet, on doit le dire. Le mystère de Jésus, je dirais, assume tout le mystère de l'Église. Et donc, le mystère de la première venue de Jésus et la seconde venue de Jésus sont intimement liés. Il y a une unité profonde. Dans cette perspective, vous voyez, on devrait découvrir, et encore une fois, c'est capital, hein, ce serait le plus intéressant à faire, ça c'est bien évident, ça, je suis tout à fait d'accord. Ce serait le plus intéressant à faire, c'est d'essayer de comprendre, et ce serait ce que le concile nous demande. Dans la mesure où on le peut, on le fera, on essaiera de faire cela, mais ce n'est pas ce que je ferai directement avec vous, mais je veux que vous voyez ça tout le temps comme une perspective ultime et une perspective fondamentale. On essaierait de comprendre, à travers les prophètes, quelle est la mission du Messie. Comment comprendre la mission du Messie? Il est celui qui doit venir sauver. Sauver temporellement, sauver éternellement. Toujours les deux. Sauver à travers la souffrance, sauver en conduisant à la gloire. Puisque il y a toutes les prophéties qui montrent le point de vue de la misère ou de la souffrance ou du rejet que les hommes font à l'égard du Messie, à l'égard de celui qui est l'envoyé de Dieu pour nous, et puis les aspects, au contraire, glorieux. Donc, il faut saisir dans cette économie divine, dans cette perspective de théologie qui implique tout un aspect de théologie biblique, c'est bien évident. Ce qu'est la mission du Christ telle qu'elle est présentée dans l'Ancienne Alliance. Puisqu'on peut dire que tout le peuple d'Israël, c'est pour Jésus. Et que Jésus accomplit la loi et les prophètes. Si Jésus accomplit les lois et les prophètes, tout ce qui nous est dit dans l'Ancienne Alliance est réalisé dans le Christ. Alors je sais très bien que là, il y a des interprétations diverses. Il faut être attentif à cela. Mais je crois que pour un chrétien, on doit dire que le Christ accomplit la plénitude des prophéties. Et que les prophéties dans le Christ, toutes les prophéties de l'Ancien Testament, dans le Christ, sont accomplies. Elles n'ont pas été nécessairement accomplies dans la mission que Jésus a remplie sur la terre, mais par le mystère de la résurrection, par le mystère de l'ascension, Jésus accomplit pleinement toutes les prophéties. Donc, en lui, toutes les prophéties sont réalisées. Ce qui est très important, vous voyez, comme interprétation. Parce que si vous dites que toutes les prophéties ne sont pas réalisées dans le Christ, vous devez donc reprendre toutes les grandes prophéties d'Isaïe, surtout d'Ézéchiel, et montrer que ces prophéties ne sont pas réalisées totalement dans le Christ et donc doivent être réalisées dans l'Église. Il y a, autrement dit, une perspective très différente auquel il faut être attentif. Et il faut comprendre laquelle est authentiquement catholique, authentiquement chrétienne. Parce que celle des pères de l'Église, c'est celle que je vous dis. Et je crois que tous les pères de l'Église là-dessus sont unanimes. C'est au fond assez récent. Cette perspective différente, Pannenberg joue un peu le rôle là-dessus. Cette perspective de considérer que les prophéties de l'Ancien Testament ne sont pas totalement réalisées dans le Christ. Et donc doivent se réaliser dans l'Église. Vous voyez que ça change tout par rapport à l'Église. Et ça, je crois que c'est très très important de voir que notre lumière que nous avons sur le Christ va avoir immédiatement un retentissement sur toute notre théologie de l'Église. Telle théologie du Christ, telle théologie de l'Église. Telle erreur sur le Christ, telle erreur sur l'Église. Telle limite sur le mystère du Christ, telle limite sur le mystère de l'Église. Il y a une répercussion immédiate parce que le Christ est tête. Et que nous ne sommes que les membres. Et que les membres comme tels n'ont de plénitude d'intelligibilité et de vie que dans la tête. Et c'est pour ça que c'est si important de voir comment toutes les prophéties de l'Ancien Testament se trouvent réalisées en plénitude dans le Christ. Et l'Épître aux Colossiens montre ça de façon étonnante. Et je dirais, c'est surtout les Épîtres de Saint Paul qu'il nous montre, hein. Ça, il nous montre avec vigueur. Et c'est pas pour rien que Dieu a choisi quelqu'un comme saint Paul pour nous le dire, hein, avec son tempérament. Et puis aussi, quelqu'un qui était pleinement et totalement pharisien et qui le savait, et qui, par sa conversion, et sa conversion, c'est tout de suite le contact de Jésus dans sa gloire. Parce que quand il y a une première expérience de Jésus sur la terre, comme les autres apôtres, on a peut-être moins ce sens-là. Puis les apôtres n'avaient pas à le dire d'une façon aussi forte. Tandis que lui devait le dire d'une façon très très forte. Comment, de fait, tout se trouve réalisé dans le Christ, en plénitude. Et à partir du Christ, on est dans une alliance, donc au point de vue économie divine, de plénitude. On est dans une alliance de plénitude. Dès que le Christ est là, on est en présence d'une plénitude. Et que donc le développement de l'Église n'est pas du tout le même que celui de l'Ancien Testament. Au point de vue économie divine. On doit sentir toute la différence. Le développement qui se fait à partir du Christ est un développement qui sera d'ordre théologique et non plus de révélation. Alors, c'est là où il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la théologie. La théologie, c'est la manière dont nous vivons de la révélation, dont nous essayons de l'expliciter. Et alors, c'est évident que de ce côté-là, il y a un progrès. L'Église a une conscience plus nette du mystère du Christ aujourd'hui que les apôtres dans les Actes des Apôtres. Je dis plus explicite, je ne veux pas dire plus grande, plus contemplative. Je crois que c'est Marie qui est la seule a eu cette plénitude de contemplation par rapport à Jésus. Sans doute ensuite, c'est Jean. Je crois qu'on peut le dire. C'est le théologien contemplatif par excellence. Et que la contemplation de Jean sur le mystère de Jésus est d'une intensité plus grande que la nôtre. Mais nous savons certaines précisions que Jean ne nous dit pas. Donc il faut bien comprendre la différence entre l'économie divine avant le Christ et l'économie divine après le Christ. D'un côté, c'est vraiment un progrès dans la révélation pour arriver à la plénitude en Jésus. Et une fois que Jésus est là, la plénitude nous est donnée. Et alors c'est une question de précision intellectuelle, importante au point de vue du dire. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas seulement le dire. Ce qui est le plus important au point de vue théologique, c'est la contemplation. C'est là où je ferai une petite bémol par rapport à Pannenberg. Hein. Parce que nous faisons de la théologie en premier lieu pour contempler. Hein. Nous ne faisons pas de la théologie premièrement pour dire, c'est-à-dire pour exprimer aux autres. Il faut d'abord contempler. La vieille devise attribuée à l'ordre de Saint-Dominique, hein, nous pouvons l'apprendre. Hein. Il faut d'abord contempler pour ensuite dire. Ensuite, exprimer. Et on ne peut exprimer et dire que ce qu'on a contemplé. Parce qu'autrement, on ne le dit pas. On répète. Ou on le dit d'une façon didactique, on le dit d'une façon scientifique, peut-être, mais qui n'a aucun pouvoir de conversion. Ça, c'est bien évident. On ne convertit jamais quelqu'un par une conclusion théologique. On convertit quelqu'un en revenant à la source. C'est-à-dire en étant tout proche du mystère de la révélation. Et c'est ça la contemplation, c'est revenir à la source. Je dis ça, c'est parce que je crois que c'est très important, vous voyez. C'est ce que j'ai essayé de vous dire hier très rapidement, au point de vue manière d'écouter un cours de théologie. Il faut l'étudier, il faut l'écouter d'une façon contemplative, il faut l'écouter avec toute la rigueur du théologien et toutes les précisions du théologien. Mais il faut bien mettre la différence entre les deux. Il faut comprendre que l'un est d'un côté de finalité et l'autre, c'est du côté de la manière humaine dont nous devons vivre la théologie. La théologie est humaine. Elle est divine et elle est humaine. Pas de théologie en Dieu, hein. Heureusement. Le Christ ne fait pas sa théologie propre à lui. C'est sans doute pour ça qu'il n'a pas voulu écrire, pour que nous comprenions mieux que lui contemplait et n'écrivait pas, et qu'il était uniquement le contemplatif Et que si nous approchons de lui, et plus nous approchons de lui, plus nous comprenons cet aspect contemplatif capital. Premier. Alors, on peut découvrir, à partir du Christ, une certaine évolution, ou un certain progrès, à l'intérieur même des livres révélés de la Nouvelle Alliance. Essayez de comprendre comment nous avons comme trois visions du Christ différentes, c'est très vrai, le Christ des synoptiques, la manière dont saint Paul nous parle du Christ, et puis la manière johannique, sans mettre des oppositions, hein, sans mettre thèse, antithèse, synthèse, hein, surtout pas. Mais au fond, il y a trois moments, je crois en gros, vous pourrez discuter là-dessus pour les exégètes, hein, parce que c'est important d'essayer de comprendre ça. Mais en gros, c'est bien cela. Vous avez une vision du Christ au niveau des synoptiques, la vision apostolique de Jésus. C'est la vision du Christ apôtre. Vous avez une vision christologique, où le logos, hein, grec est utilisé, saint Paul. Sagesse. Il a une vision de sagesse du Christ. On ne peut pas nier ça. Puis la vision johannique, avec l'intermédiaire, comme on prend aujourd'hui, l'épître aux Hébreux, qui est une vision qui montre avant tout le mystère à la fois dans le prologue du Logos incarné. Le Verbe est devenu chair. Cette grande affirmation du prologue, qui est capitale, hein, parce que c'est ça, en quelque sorte, qui va commander, comme vous allez le voir, toute cette première étude de saint Thomas. Le Verbe est devenu chair. Et c'est ce que l'Église a voulu garder dans toute sa force. Hein. Nous y reviendrons là-dessus, parce que c'est quand même, je crois, inscrit comme quelque chose de capital dans la révélation johannique. Et puis, le mystère de la passion. C'est très net que Jean, il y a les deux grands aspects qui dominent. Vous voyez beaucoup moins ça dans les synoptiques, beaucoup moins. Vous le voyez dans saint Paul, puisque c'est inscrit dans saint Paul, c'est évident, le Christ crucifié et notre sagesse. Dans les Colossiens, vous retrouvez le Verbe devenu chair, c'est sûr. Alors, il faudrait mettre les Colossiens, et puis, ce point de vue, la sagesse de Dieu, le Christ crucifié, et notre sagesse, et toute la vision de la passion chez saint Jean. Autrement dit, dans l'évangile de Jean, nous voyons d'une façon très très forte ce mystère du Logos devenu chair, et la mission de ce Logos. Il est venu pour nous sauver. Il est l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Et ça vient immédiatement après. Il est l'agneau. Et je crois que dans la perspective johannique, ce fait que ce soit Jean-Baptiste qui dit ça, c'est pour montrer la continuité avec l'Ancienne Alliance et tout de suite nous introduire dans le mystère du sacerdoce de Jésus. Et je crois que c'est cette perspective propre à saint Jean qui nous montre comment Jésus, Verbe incarné, est le médiateur par excellence, le nouveau Moïse, puisque c'est dit dans le prologue, hein, c'est toute l'opposition, la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité nous sont données par Jésus-Christ. Vous voyez, les deux grands médiateurs. Et ce rôle très particulier des deux médiateurs qui fait toucher immédiatement le rôle de la mission. Quand je regarde le Verbe incarné, c'est regarder, contempler Jésus pour lui-même, dans la lumière du Verbe. Quand je regarde le médiateur, c'est sa mission. Il est médiateur. Il y a diverses manières de l'être. Il est d'une façon toute nouvelle, médiateur comme fils unique, dans son sacerdoce de fils unique. Il est médiateur dans son sacerdoce. Et je crois que c'est cela qui caractérise, au point de vue économie divine, la grande vision de saint Jean, en montrant que ce prêtre, parce qu'il est fils bien-aimé du Père, nous donne le paraclet. Et le paraclet, c'est celui qui nous est donné pour que nous vivions du Christ et que le mystère du Christ soit de plus en plus au cœur de toute notre vie et que toute notre vie, ce soit d'être témoin vivant la même mission que le Christ à notre manière et en attente du retour du Christ. Le grand mystère de l'attente de l'Ancien Testament est repris dans l'attente de l'Église, mais pas premièrement, vous voyez, c'est ça la différence. Dans l'Ancien Testament, on peut dire que l'attente du Messie, c'est ce qu'il y a de principal. Dans la Nouvelle Alliance, on peut dire que le témoignage, donc vivre la mission du Christ, c'est le principal dans l'attente. Donc il y a une modalité qui est différente et je crois qui est importante pour bien saisir la différence entre ce qui est avant la venue du Christ et ce qui est après et pour comprendre ce que le paraclet réalise au plus intime de nous. Donc, faire une théologie du Christ, c'est nous placer dans cette perspective de l'économie divine. Vous voyez bien. Et vous voyez bien qu'à ce point de vue-là, je reconnais que c'est cela que nous devons faire. Mais ce n'est pas ce que je ferai. Mais c'est ce que nous devons faire, je vous le dis tout de suite. Et nous essaierons, si vous voulez, parce que nous devons essayer de le faire, chacun dans la mesure où nous pouvons. C'est très important. Si nous ne faisons pas ça, je crois que nous ne sommes pas dans la perspective que réclame de nous Vatican II. Alors nous devons l'être. Et notre formation nous demande de le faire. Mais c'est quelquefois très bon, vous voyez, de vivre dans un chantier théologique. Hein. C'est pas très drôle de vivre dans un chantier au point de vue de la vie pratique, mais au point de vue proprement théologique, c'est très important. J'aime mieux vivre dans un chantier que dans une petite maison bien, bien ordonnée, avec les petits bibelots et puis le fauteuil, et tout est bien ordonné, on ne peut rien bouger, ça a été dit comme ça par saint Thomas, ça ne peut plus bouger. Ce serait une très mauvaise théologie. Ce serait avoir un système. Et donc, c'est contraire à toute la théologie, au sens rigoureux, c'est contraire à la foi. La foi est essentiellement une attente de la vision béatifique. Et la théologie est essentiellement une attente de la vision béatifique. Hein. Quand nous arriverons dans l'au-delà, on verra que tout ce qu'on a dit, c'est de la bêtise. Hein. C'est ce que saint Thomas, à la fin de sa vie, tout ça, c'est de la paille. C'est de la paille. Si vous croyez que c'est pas de la paille, vous n'avez pas le droit de faire de la théologie. C'est de la paille. C'est la vision béatifique vers laquelle nous tendons. Alors, c'est de la paille. C'est très important d'avoir un peu de paille. Hein. C'est très très important. Parce que si vous n'avez pas de paille, vous n'avez pas grand-chose à brouter. Et ça ne va pas, n'est-ce pas? Alors vous avez besoin de la paille. Mais il faut tout le temps se dire que c'est de la paille. Et je crois qu'il faut le comprendre de façon très profonde. Autrement, on est trop sérieux comme professeur de théologie. Et là, si on est trop sérieux comme professeur de théologie, on fait toujours passer des examens. Au moment des examens, si l'étudiant dit que c'est de la paille, je ne sais rien, je l'ai brouté, je n'en ai rien, et on dit, ouais, alors ça c'est très mauvais, ça, insufficienter. Mais c'est... Oh, comme examinateur, et le professeur de théologie, il est examinateur aussi, alors il est sérieux comme examinateur. Mais en tant qu'il fait de la théologie, il doit avoir toujours cet humour hein, profond. Ce sens critique. Grand problème dans cette perspective, je vous pose quelques problèmes, c'est une introduction. Dans une introduction, c'est les pistes qu'on doit essayer de trouver, vous voyez ? Et c'est très important de découvrir ces pistes. Et on doit les découvrir profondément chacun d'entre nous. Dans cette grande vision, vous voyez, je vous ai dit, ça se termine par le sacerdoce. Alors, je crois qu'il y a quelque chose de très important à découvrir dans cette perspective de l'économie divine. Ce serait de découvrir, selon l'Ancien Testament, dans l'économie divine, quelles sont la place des médiateurs. Autrement dit, que représente l'alliance ? Il y a la mission et l'alliance. L'alliance avec ce que vous connaissez bien, les pères, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Dans quelle mesure Abraham est-il préfiguration du Christ ? Dans quelle mesure Isaac l'est ? Dans quelle mesure Jacob aussi ? Bon, il y a une alliance avec les pères, c'est la première alliance et c'est la première médiation, c'est une médiation d'un caractère très particulier. Mais c'est un médiateur Abraham, puisqu'il est dit, il reçoit la bénédiction de Dieu. Il reçoit la bénédiction de Dieu, c'est quand même ce qui caractérise Abraham. Et non seulement il reçoit la bénédiction de Dieu, mais il a ce pouvoir extraordinaire que tous ceux qu'il bénira seront bénis. C'est bien ça le rôle du médiateur. C'est quand même extraordinaire, comme la médiation d'Abraham dans l'ordre de l'économie divine. Regardons bien cette médiation du Père, qui est liée à la bénédiction. Bénédiction de Dieu. Or, la bénédiction de Dieu est toujours liée au mystère de la fécondité. Il y a un mystère de fécondité. C'est quand même très très important de comprendre cette fécondité qui est tout de suite donnée avec Abraham, qui est reprise avec Isaac, qui est reprise avec Jacob. C'est quand même aussi très important, ça. Il n'y a pas qu'Abraham. Il y a tout de suite ce lien. Et ce lien qui se fait avec un lien selon la chair. Mais le lien de la chair est dépassé par un lien direct avec Dieu. C'est très important la bénédiction d'Abraham. C'est très important la bénédiction d'Isaac. Mais il y a aussi une bénédiction directe avec Dieu. Dieu choisit Abraham, Dieu choisit Isaac, Dieu choisit Jacob. Il les choisit. Et donc, il y a là une gratuité d'amour commandée par un lien selon la chair et le sang, donc commandée par la famille. Alors ça, c'est aussi très important et nous aurons l'occasion d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Fécondité, famille. Fécondité selon la chair et le sang, fécondité divine. Et les deux fécondités sont liées l'une dans l'autre, hein. Et les deux fécondités prendront, je dis fécondité selon la chair et le sang, fécondité divine, prendront avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, trois modalités différentes. Hein. Étudier ces trois modalités de la fécondité selon la chair et le sang avec les trois, c'est quand même pas tout à fait la même. C'est même très curieux. Il n'y a pas de répétition. Et il y a une fécondité divine qui se répète à travers et au-delà de tout cela. Alors, je m'arrête maintenant ou bien je continue ? Parce qu'il y a deux manières de faire, puisque les deux cours se suivent. Moi, je veux bien arrêter un quart d'heure, si vous avez besoin de vous arrêter un quart d'heure. Autrement, je peux continuer et puis vous donner un peu plus de temps pour après. Je crois que c'est presque mieux. Vous êtes d'accord, vous ? Hein ? Je ne ferai peut-être pas ça tout le temps quand je serai à court. Hein ? Et alors, je me dirai un petit quart d'heure de repos pour profiter. Mais quand il s'agit du premier cours, c'est comme Petit Jean, c'est le commencement qu'on sait le mieux. Hein, alors ça va. Nous apprendre ce travail intellectuel, chacun selon ses capacités. Mais ne considérons jamais que le travail intellectuel de la théologie ou de la philosophie est quelque chose d'accidentel. On peut faire ou pas faire. Je crois que ce serait contraire à l'esprit même de la communauté Saint-Jean. Ce serait oublier que l'Église a besoin de cette communication vécue de la sagesse de Dieu. Et ça ne se fait pas à la dernière minute. Vous avez des années de formation qui seront très courtes quand vous arriverez au terme. Vous direz, au début, on dit, oh, c'est long, hein. 6 ans, 7 ans, c'est effrayant. Plus on s'approche du terme, plus on voit qu'on n'a pas le temps. Alors, il faut que ce soit toute notre vie. Nous nous formons par l'Esprit-Saint. Mais si on n'a pas pris des habitudes intellectuelles du travail pendant le temps des études, on risque de ne jamais les prendre après. Alors, il y aura quelque chose que nous aurions dû faire et qu'on n'a pas fait. Il ne faut pas mettre en opposition le temps qu'on consacre à l'oraison et le temps qu'on consacre à la vie intellectuelle. Il ne faut surtout pas mettre ça en opposition. Parce que je crois qu'il doit y avoir une très grande unité dans le regard de la sagesse de Dieu. Mais il faut comprendre que c'est une urgence. Il ne s'agit pas seulement d'écouter les cours. Il s'agit de travailler soi-même, d'apprendre à lire saint Thomas, d'apprendre à lire saint Augustin, d'apprendre à lire les pères de l'Église, d'apprendre à lire les saints, pour qu'il en reste quelque chose, voyez. Parce que même si vous avez une très bonne mémoire, comptez pas trop dessus. Et donc, il faut penser qu'en lisant les vies de saints,